Shalom, nous allons étudier Daf Lamed Alef dans le Sechet Psachin, nous reprenons la fin du Daf Lamed Amud Bet à la Mishnah. On nous parle ici d'un prêt, d'un juif qui prête à un non-juif ou l'inverse. Et on va nous parler du statut d'un objet qui sert de remboursement éventuel. Si la personne ne rembourse pas, on utilisera l'objet comme remboursement. Et cet objet est du Chametz. Et donc la question c'est à qui appartient cet objet pendant la période de Pessah. Donc ici, la durée du prêt passe pendant la période de Pessah, et donc pendant Pessah, c'est un objet, Chametz, qui sera éventuellement utilisé comme remboursement. Et là, on va faire la distinction en fonction de qui est le prêteur, le juif ou le non-juif. Donc ici, c'est un non-juif qui prête de l'argent à un juif avec la possibilité de se faire rembourser avec du Chametz qui appartient aux juifs. On considérera qu'après la fête, ce sera un Chametz dont on pourra profiter parce que il sera considéré pendant la fête comme appartenant au prêteur qui est non juif. Et à l'inverse, du coup, la logique inverse, Israël Shilvait Nochri al Chametzo, quand c'est le juif qui prête au non juif, eh bien, c'est le juif qui sera considéré comme étant propriétaire de ce Chametz qui servira éventuellement de remboursement. Chara Pesach, Asur Be'ana. La Gemara va mettre de côté cette Mishnah et l'explication du cas pour parler d'une machloket entre Abaye et Rava et la comparer à d'autres enseignements et entre autres à la fin avec celle de notre Mishnah. En tout cas, Idmar, il est dit maintenant, dans un cas similaire, Baal Chov, lorsque quelqu'un donc prête de l'argent et qu'à la fin il se fait rembourser par l'objet qui servait donc de remboursement éventuel. Est-ce que lorsqu'il va à la fin récupérer cet objet de remplacement, est-ce qu'il sera considéré comme étant son propriétaire depuis le départ ou pas? Machloket Abaye Verava. Abaye Amar Lemafra ou Gove. Selon Abaye, il sera considéré comme étant propriétaire à l'origine, avec toutes les conséquences qu'il y a. Et Rava Ma, Mikanou Laba ou Gove. Selon Rava, pas du tout. On considérera que comme c'est maintenant que la personne n'a pas remboursé avec de l'argent liquide et que donc on utilise cet objet de remplacement, eh bien, c'est la raison pour laquelle il ne sera propriétaire qu'à partir de maintenant. L'Agma va nous expliquer que la conséquence, elle est pour un cas où il y a eu un changement de propriétaire entre-temps. Et l'Agma nous dit, on ne parle pas ici d'un cas où le changement de propriété s'est fait à l'initiative de l'emprunteur, parce que lui, l'emprunteur, est engagé. Donc, même s'il vend l'objet en attendant ou qu'il le cède, il le sanctifie, eh bien, c'est sûr que le prêteur pourra récupérer ce bien. La question, elle est si le prêteur lui-même qui a accès au bien le cède, le vend ou le sanctifie à Dieu, eh bien, à ce moment-là, la question, est-ce que c'est valable parce qu'il est propriétaire depuis le départ ou pas? C'est ce que la Gemara va dire tout de suite. Kol echad ehakdish vezavin lové. Quand c'est l'emprunteur qui, entre-temps, donc pendant la période du prêt, le vend ou est makdish, le sanctifie, Kula mal obligé d'être malvé et tarif. La question ne se pose pas. Il est évident que puisqu'il est en train de céder ou de sanctifier un objet qui est déjà engagé à être éventuellement le remboursement de la dette qu'il a contractée, a été malvé au pari, que c'est sûr que le prêteur peut revenir et récupérer, racheter ou récupérer le Hekdesh. Comme c'est marqué dans une Mishnah là-bas au sujet justement du Hekdesh, dit Nan Mosif od dinar, ou peut-être un chassim la elu, il rajoute un dinar et il rachète les biens qui sont Hekdesh. Donc la question ne se pose pas. Qui plie la marloket à Baye Verava? Est-ce que le prêteur qui récupère l'objet de substitution, est-ce qu'il en est propriétaire depuis le départ ou pas? Ça, c'est par rapport à un cas où ce serait lui-même qui aurait cédé ou sanctifié le bien en question. Qui plie des avines malvées lorsque c'est le prêteur lui-même qui, entre-temps, a vendu Vehakdish ou qui l'a sanctifié. Amar Abaye le mafra au gove, qui va en des matas, imne, velo pareil, galamil, t'as les mafra des mekara, bichouté, avakae, Veshapir Akdish, Veshapir Zavin, dit Abaye, puisque au moment où on le rembourse avec cet objet de substitution, il est considéré rétroactivement comme étant son propriétaire depuis le jour du prêt, eh bien, ça veut dire que du coup, quand, pendant la période du prêt, il a cédé ou il a sanctifié, il l'a fait avec quelque chose qui lui appartenait, et donc ça a son effet. Alors, selon Rava, comme ça n'est qu'à la fin qu'il est réellement le propriétaire, tout ce qu'il a fait avant n'a pas de valeur, et Rava ma mi kanu laba hu gove. La preuve de Rava, c'est quoi? Kevan de ilu avezuze abam selek lehu bezuze. Puisque l'emprunteur, jusqu'à la dernière minute de la période de prêt, pouvait finalement se débarrasser de son créancier en lui donnant du liquide, ça veut dire qu'en réalité, il n'a jamais été propriétaire de cet objet jusqu'au moment où l'emprunteur a effectivement avoué qu'il ne pouvait pas rembourser. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être quelque chose de rétroactif. Donc maintenant qu'il le prend, c'est que maintenant qu'il en est le propriétaire. Donc on voit bien qu'on a trouvé un cas d'application de la marque Abaye de Rava. Est-ce que celui qui est payé, remboursé de son prêt par un objet de substitution, est-ce qu'il en est propriétaire depuis le départ? Oui, selon Abaye. Non, selon Rava, ça n'a de conséquence que dans le cas où ce même prêteur, pendant la période du prêt, a cédé ou sanctifié le bien. Maintenant, l'agma s'étonne sur Rava. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une halakha de Rava qui semble être basée sur le fait que lui aussi serait d'accord que ce serait rétroactif. Le cas est un peu complexe, en tout cas un peu étrange. « Miamar Rava, achis, que Rava a dit ça, va amar Rami Bachama, pourtant on a dit au nom de Rami Bachama et Rava va, effectivement, commenter. » Alors c'est quoi? C'est un cas un peu particulier. « Reuven shemachar sadeh lishmon bachariut. » On a ici Reuven qui est un vendeur. Il vend son terrain. Simplement, il le vend avec ce qu'on appelle achariut. Achariut, c'est une garantie. Garantie de quoi? Quand quelqu'un doit de l'argent, tous ses biens, surtout les biens donc immobiliers, sont assujettis à ses dettes. Donc, ce qui veut dire que si la dette précède la vente, donc il va vendre son terrain quelque temps après avoir contracté une dette, un emprunt, eh bien à ce moment-là, eh bien, l'objet qu'il est en train de vendre, enfin, le terrain qu'il est en train de vendre, est assujetti à cette dette. Et donc, il est possible que le créancier, dans quelques années, s'il n'arrive pas à se faire rembourser de Reuven, aille récupérer le terrain chez Shimron. Simplement, Shimron, quand il achète son terrain, parfois, pour ne pas prendre de risque, préfère demander, au lieu de le payer moins cher, en impactant, du coup, dans le prix, le risque qu'il a de perdre le terrain, il préfère demander, le payer au prix plein et demander une achariut, c'est-à-dire qu'il demande à son vendeur de lui vendre le terrain. Et effectivement, si un créancier vient récupérer le terrain, à ce moment-là, le Reuven sera obligé de rembourser le prix que Shimon a dépensé pour le terrain. Donc c'est ça qu'on appelle Machar Sadeh les Shimon Bachariut, il a vendu un terrain Bachariut. Ça, c'est la première chose. Ce qui rend le cas un peu plus complexe, c'est que le jour de la vente, Shimon ne paye pas le terrain. Au lieu de payer le terrain, il signe un document comme quoi il doit la valeur du terrain à Reuven. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir un engagement éventuellement dans les deux sens. On a un premier engagement certain, c'est Shimon qui est l'acheteur ici du terrain, doit quoi qu'il arrive dans un premier temps payer son terrain. Et on sait également que si Shimon se fait récupérer le terrain par un créancier de Reuven, on sait que dans ces cas-là, Reuven aura à ce moment-là une obligation de dédommager Shimon en lui remboursant son argent. Mais pour l'instant, il n'a pas encore payé. Donc du coup, que se passe-t-il? Kafan alab milvé, le prix même du terrain est pour l'instant sous la forme d'une dette, au maître Reuven, et entre-temps, Reuven, le vendeur, meurt. Ce qui fait que ce sont maintenant les héritiers qui vont réclamer l'argent. Ve'ataba al-chov de Reuven ve'tarif le mishimon. Et que se passe-t-il? Il y a un des prêteurs de Reuven, qui, au lieu d'aller voir les Yétomim, va voir directement Shimon et dit, voilà, tu as acheté un terrain à Reuven qui me devait de l'argent au moment où il te l'a vendu, donc j'ai récupéré le terrain. Data Shimon ou Paisé Bezouzé. Et Shimon ne voulait pas lâcher le terrain. Donc, pour ne pas lâcher le terrain, qu'a-t-il fait? Il a payé avec de l'argent le créancier de Reuven pour lui laisser le terrain. Donc, d'une certaine manière, il a payé à la place de Reuven et des héritiers. Il a payé pour justement qu'on lui laisse le terrain. Dinahu, Agmar nous explique que les héritiers peuvent venir et lui réclamer. Dinahu de'atu bnei Reuven v'amrei le'le Shimon, les fils de Reuven. Eux, je vous rappelle que Reuven n'a pas été payé du terrain. Donc les fils de Reuven, eux, s'attendent à ce qu'on leur donne l'argent du terrain, puisque à la base, on a dit que la vente s'était transformée en dette, puisqu'on n'a pas payé. Donc du coup, ceux-là demandent l'argent. Il dit non, notre père, il nous a laissé une dette, mais une dette d'argent. D'argent liquide, pas d'un terrain. Et donc, cette dette-là, elle n'est pas finalement liée au terrain. Et donc, même si effectivement le créancier de notre père pouvait récupérer le terrain, eh bien, ce que toi tu as fait de lui donner de l'argent, eh bien, ça ne va pas finalement remplacer l'argent que tu nous dois. Il faut toujours distinguer dans les biens liquides et de l'autre côté, les biens immobiliers. Un bien immobilier, effectivement, est assujetti aux dettes. Donc, les terrains que nous possédons, effectivement, un créancier peut venir les récupérer. Par contre, les biens liquides, et en l'occurrence ici, une créance, c'est censé être justement des biens liquides, cette créance-là, il ne peut pas la toucher. Donc, l'argent que tu nous dois, toi, Shimron, pour le terrain que tu n'as pas encore payé à notre père, cet argent que tu nous dois, c'est du liquide, et ce liquide-là ne peut pas être saisi par le créancier de notre père. Donc, du coup, tu as mal fait. Tu as mal fait. À ce moment, il fallait éventuellement lui donner le terrain, et à ce moment-là, nous, on aurait dû te rembourser le terrain, et toi, tu aurais dû nous le payer. Donc, on se serait bien sorti. Mais là, ici, ça ne marche pas. Donc, la Gemara nous dit, que faire pour le Shimon? Parce que le Shimon, il est un peu gêné. Pourquoi? Parce que il a effectivement récupéré un terrain à la base qu'il n'a pas payé. Simplement, pour le garder, il a payé une première fois le créancier de Reuven. Et maintenant, le problème, c'est que les enfants de Reuven lui réclament le prix. Donc, cet homme-là va payer deux fois son terrain. Amarava, Rava nous dit, Ipikar Shimon, si le Shimon en question, donc l'acheteur, est intelligent, au lieu de rembourser avec du liquide, s'il leur donne effectivement du liquide, il pourra jamais revoir son argent. Magbeleu Ara, au lieu de les payer avec du liquide, il les paye avec un terrain, avec le terrain en question. Et du coup, il les paye avec un terrain. Et comme du coup, je rappelle que Reuven lui-même s'est désengagé auprès de Shimon, que si un jour un créancier vient lui prendre le terrain, lui-même lui doit de l'argent. Donc il y a une dette, et ces dettes sont toujours attachées au terrain. Et donc s'il lui donne un terrain, il pourra, grâce au fait qu'un terrain est toujours lié justement aux dettes, récupérer le terrain pour justement cette dette. Il va dar gavela minayou, parce qu'il pourra récupérer. Tamar Abnachman, Karan Nachman dit, yetomim shegavu karka bechovat avihem, des yetomim, donc des héritiers, qui récupèrent un terrain grâce à de l'argent ou à une créance que possédait leur père, eh bien, Baal Chof, Rosav et Goveota, Mehem, il peut y avoir un créancier du père qui vient le récupérer. Et donc, ce sera le cas ici. Donc ici, les héritiers vont récupérer l'argent que Shimon devait à leur père pour l'achat du terrain. Lui, il leur donne en argent. Et après, il dit, mais vous savez, votre père, il me devait à moi de l'argent dans le cas où on me prenait le terrain. Et donc, comme il me devait de l'argent, maintenant, vous me devez cet argent. Et donc, il récupère le terrain. Tout cela, la Gemara ne le comprend que si on pense ici que c'est les mafréas. Iyamar bishlama les mafréas. Donc, c'est Rava qui a conclu tout cela. Iyamar bishlama les mafréas au gové. Si tu dis que selon Rava, eh bien, un objet substitution appartient au prêteur depuis le départ. Alors, du coup, amtou le achir, chose ve gové ota mehen. La conclusion de Rava, qui dit que du coup, quand les yétomim récupèrent un terrain pour la créance de leur père, quelqu'un peut venir le récupérer, ça n'a de sens que si on part du principe que ce que font les yétomim de récupérer le terrain, c'est comme si ça leur appartenait depuis toujours, et donc au père, puisque la créance a commencé du temps du père. Keman, Degavu, Mechaim, Davuron, Damé. C'est comme si finalement c'était déjà dans la main du père depuis le départ. Et donc c'est pour ça qu'un créancier peut venir le reprendre. Et là, il y a Marthe. Mikan Moul Abba Ogové. Mais si tu dis que quand on prend un objet de substitution, on en est propriétaire qu'à partir de maintenant, comment c'est possible? Ça devient un bien qui est comme acheté par des yétomim. Or, les yétomim, quand ils achètent un nouveau bien, on ne peut pas le leur récupérer. Rosa Vegoy Otam, mais comment c'est possible? Avec Eman Zavignat, mais Nirse, Damé, c'est comme s'ils venaient de l'acheter maintenant. Et on sait quoi? Veilou, Kaneyat, mais Nirse, s'ils achètent des biens aujourd'hui, Mika, Mishta, Abede, le Balchov, c'est évident qu'un créancier du pain ne peut pas le récupérer. Donc, l'Agma nous dit, toute cette histoire là-bas de Rava nous montre qu'a priori, on estime que lorsque on rembourse avec un bien de substitution, on en est considéré comme étant propriétaire depuis le départ, même selon Rava. Donc c'est étonnant parce qu'on a vu que Rava s'opposait à Abaye. L'Agma répond, non, Shane Atam, Namalo ki echid mishtabina le avuchon, mishtabena nami le baalchov de avuchon. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne dit pas que c'était le bien du père depuis le départ. Simplement, c'est que on a vu que ce terrain-là, à la base, il y avait dessus une nécessité de le payer. Donc, c'était la première créance. Et après, Reuven lui-même s'est engagé à ce que si un jour on prend le terrain à Shimon, lui-même le paye. Donc, en fait, il y a deux créanciers, l'un après l'autre. Donc, du coup, c'est comme si Shimon dit, voilà, c'est vrai qu'il y avait des créanciers qui pouvaient prendre ce terrain, mais il y en a un autre de créancier, et c'est moi-même. C'est celui envers qui votre père s'est engagé de rembourser si quelqu'un lui prend le terrain. Donc, je suis moi-même assujetti à cela. Et donc, le terrain lui-même, il est effectivement dans un premier temps récupérable par les créanciers de votre père, mais il est aussi récupérable par un autre créancier de votre père, qui est moi-même, puisque moi-même, il s'est engagé à me le rembourser. C'est pour ça que ça peut revenir à ce moment-là à Shimon, sans pour autant qu'on considère que depuis le départ, c'était au père. Mide Rabbi Nathan, on apprend ça de Rabbi Nathan et Tania, c'est marqué Rabbi Nathan Omer. Nein et Noché Bechavero Mané. Bechavero, Bechavero. D'où on sait que si A doit de l'argent à B et que B doit de l'argent à C, d'où on sait que finalement, on peut passer directement du dernier au premier. Shimotzi, Imizé, Natim Lazé. D'où on sait qu'on peut prendre de A et donner à C. Tamuloma, Venatan, Asher, Asham, Lo. Là-bas, on le donnera à celui à qui il doit. On fait une déduction que des fois, ça peut sauter une personne et donner au créancier du créancier. Et donc, c'est comme ça ici que ce bien-là va retomber dans les mains de Shimon parce qu'il est lui-même, encore une fois, le créancier du créancier. Nan maintenant rapporte notre Mishnah et on va enfin essayer de la comparer avec la Machloket Abaye Verava. Nochi Shilva et Israël Chametzo Achara Pesach Muta Bana. On a vu que un Nochi, un non-juif qui a prêté de l'argent à Israël avec du Chametz comme possibilité de rembourser, après Pesach, on peut en profiter parce que ça appartient au Nochi. Yama bishamale mafra au gove, un tout l'achi, muta abana. Si tu dis que c'est parce que quand on rembourse à la fin, c'est considéré comme étant rétroactivement la propriété du créancier, comme abayé, je comprends très bien. Et là, yamart, mikan ou là-bas au gove, mais selon Rava, que c'est à la fin que ça appartient, c'est-à-dire que pendant Pessah, ça appartenait encore à l'emprunteur, donc aux juifs, donc ça devrait être à Sobehana. Muta abana birshuta d'Israël avakae, ça appartient aux juifs. La gma dit, achabuma skinan, keshir hino etzlo. Oui, non. C'est pas simplement, dans notre Mishnah, un cas où c'est une possibilité de rembourser. C'est un cas où vraiment c'est un mashkon, c'est un gage. Donc il est dans la propriété du non-juif et il peut se faire rembourser avec. Donc c'est pour ça que ça appartient au non-juif. Maintenant, la Gemara se demande si la Machloket Abaye Verava n'est pas liée à une autre Machloket Tanaïm. L'Ima Ketanaï, est-ce que ça vient à la Machloket Tanaïm suivante? Israël Shilva le Nochi al Chametzo. Un juif qui prête de l'argent à un non-juif. Avec encore une fois du chametz comme possibilité de remboursement. La chara pesach est non over. Après pesach, il n'y a pas de problème sur ce chametz. Mishum Rabbi Meir amru over. Selon Rabbi Meir, il y a ici un souci. Donc c'est le prêteur ici, c'est le Israël. Si le prêteur est un Israël, on a une marloquette. C'est pas un problème pour le chametz selon Tanakama et selon Rabbi Meir, c'est oui un problème. Maïla behakamiflagé, n'est-ce pas que c'est exactement notre marloket? Mar ça va les mafra au gové, ou mar ça va mikan ou là-bas au gové. Un des deux pense que c'est rétroactif, et l'autre pense que ça ne l'est pas. Donc, comme Israël c'est le prêteur, celui qui dit que c'est envers, donc Rabbi Meir dira que rétroactivement, c'était au prêteur, donc au Israël. Et celui qui dit que non, dira qu'on n'est pas envers. L'agma dit pas du tout. Parce que regarde la fin. Si tu penses que c'est une histoire de Abaye Verava, les mafréa, pas les mafréa, dans le cas où c'est un juif qui emprunte à un non-juif, donc le non-juif qui prête, à ce moment-là, on devrait avoir les avis opposés. Vetis vara, Emma Sefarga, la fin. Aval Nochi Shechal Sheval Israël, quand c'est le non-juif qui prête au juif, à Chametso, sur du Chametz, Chapesa divra kol over. Selon tout le monde, c'est Asso. Or, selon ta logique, on devrait avoir les avis opposés. Aïprami, ben, allez, on devrait simplement dire l'inverse de ce qu'on a dit là-haut. Les mains d'Amarata mais non envers. Celui qui dit que dans le premier cas, il n'y a pas de Issour, Acha, oui, il y aurait, envers. Et les mains d'Amarata envers, et dans le premier cas, celui qui dit que c'était Assour, avait meilleur. Eh bien, ici, il dira Acha, et non envers. Donc, tu vois bien que le cas de cette braïta, c'est différent. Et là, Acha, ben, askinan, ke gonchir ino etzlo. Là-bas, c'est un cas, encore une fois, où il a fait un mashkon. Donc, la braïta, comme on a fait pour la Mishnah, parle d'un cas justement où il y a un mashkon. Et donc finalement le chametz est un gage. Et comme c'est un gage, c'est là qu'on a une machloket dans le cas où le prêteur est juif, mais il n'y a pas de machloket quand le prêteur est non juif. Pourquoi? En fait, Rabbi Meir et Tanakama s'opposent sur une halakha de Rabbi Yitzhak. D'amar Rabbi Yitzhak minayin le baal chov shekone mashkon. Selon Rabbi Yitzhak, d'où savons-nous que lorsque un prêteur reçoit un gage, d'où savons-nous qu'il est propriétaire du gage en question? Chez Lémar, c'est marqué, dans la Torah, on dit que quand quelqu'un prête de l'argent à un pauvre, il faudra le soir qu'il lui rende ses couvertures et qu'il lui rende les objets du quotidien dont il a besoin. Et c'est marqué, Ulchat yé tzedaka. et ce sera compté pour toi, le prêteur, comme une tzedaka. Rabbi Yitzhak déduit de là. Im eno kone mashkon tzedaka minayin. Si le bien n'appartient pas réellement au prêteur, comment ça pourrait être compté comme une tzedaka alors que ce n'est pas réellement à lui? C'est juste qu'il a un droit de retenir. Mais si ça s'appelle une tzedaka, c'est que c'est un don. Et si c'est un don, c'est que ça lui appartient. De là, on voit que le prêteur est propriétaire d'un gage pendant la durée du prêt. Mikan e balchov shekone mashkon. De là, on voit qu'un prêteur est propriétaire du gage. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre notre Mishnah. Et c'est la raison pour laquelle dans notre Mishnah, on a vu que si le prêteur est non-juif, ça s'appelle pendant Pessah, un Hametz, un non-juif, c'est aucun problème après. Si le prêteur est juif, ça pose un problème. Simplement, dans la Braïta, on voit que dans le cas où c'est un Israël qui prête, c'est pas évident, il y a une marloquette. Pourquoi? Tanakama, ça va, anémile Israël, mi Israël. Tanakama pense que ce qui est marqué dans la Torah, que ce sera une tzedaka, c'est lorsque l'emprunteur et le prêteur sont juifs. Israël ou dekarinabe, l'chati tzedaka, aval, Israël, menochri, l'okane. Mais lui pense que dès qu'un des deux n'est pas juif, on n'applique plus le principe qui a marqué dans la Torah. Et donc, si le prêteur est juif, mais que l'emprunteur n'est pas juif, le juif ne devient pas propriétaire du bien, et comme il ne devient pas propriétaire du bien, eh bien, il n'y a pas justement de l'autre qui est tzedaka. Rabbi Meir Sava, donc ça c'est le premier avis, Rabbi Meir Sava, Kalva Chomer, lui pense qu'encore plus, Israël, Misraël, Kan, Israël, mais Nochri, le Kocheken, si déjà, quand en face c'est un Israël, le juif est propriétaire, a fortiori lorsque c'est un non-Israël. Donc finalement, on a une marloquette. Tanakama pense que le principe que le Mashkon appartient au prêteur n'est valable qu'entre deux juifs. Et donc, quand l'emprunteur est non-juif, eh bien, ça n'appartient pas aux juifs. Donc, c'est un Hametz qui appartient aux non-juifs, même si c'est un Mashkon. C'est pour ça qu'après Pessah, il n'y a pas de problème. Selon Rabbi Meir, ça marche encore plus qu'avec deux juifs. Et donc, c'est la raison pour laquelle il sera renvers. Maintenant, on explique la fin de la Braïta. Aval Nochri Shilvait Israël, si c'est le non-juif qui prête à un Israël, Al Hametzo Achara Pessah, il dira Kol Rovin. Là, selon tout le monde, on n'appliquera pas le principe de Ulchat Yit Tzedaka, que ça appartient au prêteur. Et donc, c'est pour ça que ça appartient encore aux juifs. Et donc, selon tout le monde, on est renvers. Atam Vadaï Nochri, Misraël Okane. C'est sûr que dans ce sens-là, il n'y a pas de Kinyan. Donc, c'est comme ça qu'on a expliqué la Marloket. Rabbi Meir Tanakama. Indépendamment donc de la marloquette Abaye Verava, qui Abaye Verava parle simplement d'un bien qui sert de remboursement de substitution, alors que notre Mishnah et la Breta parlent à chaque fois d'un Mashkon, ce qui fait finalement toute la différence. Maintenant, la Gemara rapporte notre Mishnah. Na Nochri Shilva et Israël Hametzor Harapesach Mutar Be'ana. Le Nochri, on a dit qu'il prête de l'argent à Israël Hametzor Harapesach, on a dit que c'est Mutar Be'ana. Et là, on va avoir un problème, parce que Nehin a mis des rino et slow, si on a vu effectivement que c'était un mashkon, c'est-à-dire qu'on l'a mis en mashkon chez la personne. Donc, on vient de dire à l'instant que quand c'est le non-juif qui prête, eh bien, le mashkon ne lui appartient pas. Et s'il ne lui appartient pas, il appartient au juif, donc ça devrait être assur, ben, na'a. Ha'amart, nochim Israël, okane. Tu as dit qu'il n'y a pas de kinyan dans ce sens-là. Or, la Mishnah nous dit que c'est muta abana. Là, qu'ma dit l'okasha. Faut encore ajouter une précision. Ha'de amarle me'achab. Ha'de lo amarle. Mais Arshav, est-ce que la personne lui a dit qu'il sera propriétaire, mais Arshav ou pas? Donc dans notre Mishnah, comme c'est un non-juif qui prête de l'argent, il faut que le juif, lorsqu'il lui laisse le mashkon, lui précise qu'il sera propriétaire rétroactivement. Donc comme il lui a dit tu seras propriétaire rétroactivement, là, ça applique finalement le din de Ulchat Yit Tzedaka, non pas à cause du verset, mais parce qu'on a précisé dans le contrat que ce serait rétroactif. Mais si on ne précise pas, eh bien, ça ne sera pas la propriété du prêteur non-juif, parce qu'on n'applique pas le din de Ulcha, ti et tzedaka. La Gemara dit, d'où tu sais qu'on peut faire cette distinction-là? Mina timra de chanele, ben echad amar me'achav, ou ben echad elo amar me'achav. D'où tu sais que cette condition-là de dire rétroactivement, ça marche? C'est une braïta, tanya, nochri, shir, in, pat, pourni, etzel, Israël. Donc, on a ici un non-juif qui a donné en mashkon un grand pain à un juif. Et non, envers, il n'y a pas de issur. Ve'im amarlo igartira. Mais si par contre il lui dit depuis le départ c'est à toi, envers. Et à ce moment-là, ça appartiendra à un juif. Et donc du coup, ça appartient à un juif, donc on est envers. Maishna resha, maishna sepa. Pourquoi distinguer? Alors que c'est les deux, c'est un mashkon. Et la lave, shma mina shane, echad amarle marcha. Tu vois bien que ça dépend justement de cette expression-là. Et gartira, ça veut dire que à la fin, ce sera à toi depuis le départ ou pas. Donc on voit bien qu'on a la distinction entre Me'archav ou pas Me'archav, Shmarmina, Lagmara, Enterine, cette distinction. On a un magasin avec la nourriture entre autres Hametz et qui appartient à un juif. Et le magasin appartient à un juif, la marchandise aussi appartient à un juif. Vous parlez Nochim Ichnasim Lesham. Simplement, les employés sont non-juifs. Hametz Shinitsacha Machara Pesar Asurbana. Là, on considérera que le Hametz qui se trouve là-bas sera problématique après la fête parce que le magasin et la marchandise appartiennent à un juif. Mais c'est vraiment Berkhala et évidemment qu'on ne peut pas les consommer. Hanou Shenochi, Omelai Shenochi, pour aller Israël, Ichnasim Yotim Lesham. Maintenant, l'inverse. Le magasin et la marchandise appartiennent à un non-juif. Seuls les employés sont juifs. Là-bas, c'est autorisé à la consommation et encore plus à tout profit. Nouvelle Mishnah. On doit détruire le Hametz. Si maintenant le Hametz est enseveli sous des pierres d'un édifice qui s'est effondré, ça y est, ça s'appelle Biur Hametz, il n'y a plus besoin de vérifier. Quelle est la quantité, on va dire, de gravats qui permet de dire que c'est mévora, c'est lorsque le chien ne peut plus aller le récupérer. Dans la Gemara nous rapporte on aura pris là qu'il faut quand même faire un bitoul. Amara pris là, c'est-à-dire chez Vatel Bilibo il faut dans son cœur quand même annuler Hametz, comme quand on fait le bio Hametz, on fait quand même Kachamira des Kabiachouti, il faut également l'annuler dans son cœur. Tana maintenant nous dit, Kama Chafisat Akeleb, quelle est la quantité de gravats qu'on appelle Chafisat Akeleb dans la Mishnah, un chien ne peut plus récupérer, c'est combien? Alors, on a dit, Shoshat Farim, 3 de Farim, à peu près 25, entre 25 et 30 cm. Malé Rabacha, Bered Rav Yosef, les Ravashi. Maintenant, on va sortir un peu de notre sujet pour voir si on applique cette même mesure pour une autre halakha. Lorsque quelqu'un garde un objet, il est plus ou moins responsable de cet objet si on le lui vole. Et ça va dépendre du degré d'engagement qu'il a en tant que chômeur, mais ça va dépendre aussi de la facilité que l'objet a d'être volé. Quand on parle ici d'argent liquide, on a tendance à penser que c'est justement très facile à voler. Et donc, du coup, le degré d'engagement du chômeur, de celui qui garde, est plus grand. Au point qu'on nous dit que pour l'argent, on sera toujours responsable du vol en tant que gardien, sauf si on l'a enfoui dans la terre. Et donc, du coup, sur cette halakha de Shmuel, la Gemara va se poser la question si enfouir, ça veut aussi dire 3 cm, 30 cm, donc 3 tfarim ou pas. Donc, en malheur, Abacha Bered Rav Yosef, pose la question à Ravashi, Hadamar, Shmuel, l'alakha de Shmuel qui dit que ça fait menem shmira. On ne peut pas vraiment garder de l'argent et être un vrai gardien. Et là, avec Arka, sauf si on l'enterre. Mi beinan shosha tfachim, est-ce que là aussi il faut 3 tfachim ou pas? Réponse de Ravashi, non, c'est pas logique de demander 3 tfachim. Amalakha, mishum recha, beinan shosha tfachim. Pour le Hametz, parce qu'on a peur qu'un chien il va récupérer, qu'après nous-mêmes on le récupère. Donc c'est lié à l'odorat du chien. Et donc c'est pour ça qu'il faut 3 tfachim de grava. Pour que le chien ne récupère pas. Alors que là, pour l'argent, la seule chose que l'on veut, c'est que ce ne soit pas visible des voleurs. Donc il suffit d'enfouir. Mais là, il n'y a pas besoin de 3. Alors combien? Avec Ama, la Gemara conclut à Rapham Bar Papa. Misicha Tefar. Donc Rapham Misicha répond, enfin Rapham plutôt, le fils de Papa Misicha répond Tefar. Il suffit qu'il y ait un Tefar sous la terre pour que par rapport à la Shmira d'un Kesef Picadon, on soit dispensé dans le cas où les voleurs l'ont pris.